France Culture. Les midis de culture. Marie Sorbier.
Bonjour et bienvenue dans les midis de culture. En cette veille de Noël, nous sommes ensemble pour 1h30 de débats critiques d'actualité et d'entretien au plus près du travail des artistes. À 13h, je recevrai Louise Aymon pour son premier long métrage, L'Englouti, qui sort en salle aujourd'hui. Mais les midis laissent la part belle à la critique au programme aujourd'hui. Du cinéma, bien sûr, puisque c'est déjà Noël. Alors non pas des nouveaux films, mais des anciens. Deux films cultes ressortent en salle aujourd'hui en version restaurée. La Panthère Rose de Blake Edwards, c'est un film de 1963, et Mariage Royal de Stanley Donen, c'est un film de 1950. Alors, le sont-ils encore cultes? Comment les regarde-t-on aujourd'hui? Voilà ce à quoi vont tenter de répondre nos critiques. Et autour de notre table aujourd'hui, Muriel Joudet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes critique au journal Le Monde et Charlotte Garçon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef adjointe des Cahiers du cinéma. Bienvenue à toutes les deux. Alors, le saviez-vous? À l'origine, la Panthère Rose n'est pas un animal, mais un diamant exceptionnel. Ce film de 1963, réalisé par Blake Edwards, a connu un succès inattendu, tellement qu'il a dû ensuite imaginer plusieurs épisodes au cours desquels l'inspecteur Clouseau, incarné par Peter Sellers, fleuron de la police française, passe de personnage secondaire à figure centrale. L'inspecteur, dans ce premier tome de la série, est chargé de protéger le diamant d'une princesse indienne menacée par un cambrioleur surnommé le fantôme.
The most fabulous diamond in all the world. Come closer.
On était obligés de mettre ce générique, pardon, je sais que vous allez tous l'avoir dans la tête toute la journée, mais Charlotte Garçon, un premier avis.
Oui, en effet, cette histoire de bijoux volés, moi j'ai plutôt eu l'impression que c'était, même si c'est une très bonne occasion pour ressortir un peu les bijoux de famille de la cinéphilie et se demander cette époque-là, l'articulation des années 60, qu'est-ce qui se passe dans le cinéma classique ou qui est en train de dégringoler. Et ce qui est beau, c'est qu'il se... Il se matine de dessins animés, on entend aussi la musique d'Henri Mancini, donc il y a quelque chose de savoureux. En même temps, il me semble quand même que on cherche moins un bijou volé qu'un récit dans ce film. Donc il faudra un petit peu en parler et voir ce qui est aussi daté dans ce cinéma peut-être.
Muriel Joudet, première impression.
Oui, en revoyant le film, c'est vrai qu'on on voit en fait que c'est plus un vaudeville qu'autre chose. Et peut-être un mot sur la musique d'Henri Mancini, je trouve qu'il est absolument génial, une sorte de saxophone un peu paresseux, comme ça, super manière de commencer un film, et qui pour moi résume les années 60 et le Hollywood des années 60, tout est déjà dans la musique de Mancini.
Voilà. Alors Charlotte, peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter Blake Edwards et nous dire comment ce film-là, La Panthère Rose, s'articule dans sa carrière?
Oui, Blake Edwards, il est vraiment passionnant parce que c'est vrai qu'on se souvient peut-être plus de lui pour Victor Victoria, son film de 1982, toute sa période avec sa femme Julie Andrews comme actrice de plusieurs de ses films. Mais en réalité, il a commencé plutôt à la télévision avec déjà une série policière à la fin des années 50, avec déjà un détective à la fois riche et assez politiquement incorrect. Quoi, plutôt là comme la figure du voleur du film. Et puis, bien sûr, avant, il y a déjà un chef-d'œuvre en 1961 qui est Diamant sur canapé. Donc, il est dans le
déjà
titre,
des diamants.
En tout cas, voilà. mais il me semble que ce film-ci, l'inspecteur Clouseau et la série des inspecteurs Clouseau, mais ce film-ci prépare plutôt la partie, enfin, The Party, son film de 1968. On peut voir comment, mais en tout cas, ce qui m'intéresse là, dans ce cinéma-là, c'est comment on croit qu'on suit une intrigue policière. En fait, c'est quand même assez inintéressant comme intrigue policière, disons. Alors, on se dit, bon, bah alors, en fait, c'est les intrigues amoureuses qui sont intéressantes. On en reparlera. Là, il y a un gros os, quand même, aujourd'hui, à voir certaines scènes très gênantes, voire plus. Et en fait, il me semble que ce qu'on comprend, et ce que lui-même a sans doute réalisé en tant que cinéaste au cours de sa carrière donc il est arrivé après le début de la fin des studios, c'est qu'en fait il devient une espèce de cinéaste assez cartoonesque et qui remet le burlesque sur le devant de la scène, mais en créant des espèces d'images un peu figées, mais comme qui sont comme des aboutissements de certaines scènes. Et pour moi, il y a au moins deux moments dans le film qui sont importants. Alors, puisque c'est Noël, il y en a une avec une bouteille de champagne qui est cachée dans un lit parce qu'un amant est caché sous le lit. On cache aussi la bouteille de champagne avec qui on a, puisqu'on allait l'ouvrir avec lui. Et puis, en fait, au bout d'un certain temps, elle s'ouvre toute seule dans le lit. Donc, je vous explique
pas. On imagine
la métaphore. Et en fait, voilà, c'est à la fois trop explicite et trop puritain. C'est à la fois vulgaire et à la fois un petit peu pas suffisant, disons, dans la représentation de la sexualité. Et puis il y a une autre scène plutôt à la fin du film où là il y a un accident. Et là on se croit chez Tati, chez le Jacques Tati de Parade, et où on s'aperçoit que l'aboutissement d'une sorte de course-poursuite, c'est véritablement de la tôle froissée, des gens blessés, etc. Et on a l'impression que là il fait un tableau. Et j'ai eu plusieurs moments où je me suis dit, mais en fait il fait à la fois un cartoon quand les personnages se poursuivent, et à la fois il fige ça. Voilà, au centre des scènes d'amour gênantes, il y a une scène avec un tigre empaillé, enfin un tapis avec la tête de
la
tigre.
La peau du tigre.
Ouais. Est-ce que c'est pas aussi ça le cinéma, l'esthétique de Blake Edwards, à savoir lutter pour que quelque chose soit encore vivant, même si c'est très artificiel et un petit peu daté.
Muriel Joudet, vous avez employé ce mot de vaudeville. C'est vrai qu'il y a des amants dans le placard, il y a des portes qui claquent. C'est ça que vous avez retenu. En effet, l'enquête policière est carrément un prétexte.
Oui, c'est un drôle de film dont on ne comprend pas vraiment quel est le sujet, quel est le centre, si ce n'est peut-être, comme dans les années 60, il y a beaucoup ça, c'est vraiment un moment parodique, et donc une sorte de parodie de vaudeville, où beaucoup de portes claquent, où on n'a pas un amant, on a deux amants, plus le mari, enfin... J'ai trouvé le film, à la fois, il y a un problème de rythme, c'est pas tout à fait bien, voilà, il n'y a pas la grâce d'un Lubitsch. C'est quand même un peu poussif, mais ce qui est intéressant, c'est peut-être ce que disait Charlotte, déjà sur que Blake Edwards est peut-être l'un des rares, dans les années 60, à réussir à prélever une esthétique de ses 60s, à faire quelque chose, déjà avec Diamant sur canapé, que je préfère parce qu'on retrouve ce qu'on aime chez Blake Edwards, c'est-à-dire le désespoir, en fait. J'ai lu hier une phrase où apparemment il aurait dit « la comédie, c'est la douleur », je trouve ça magnifique. Là, peut-être que ça manque un peu de douleur, la Panthère Rose, alors que Diamant sur canapé, c'est vraiment glauque.
On pourrait dire que ça manque aussi un peu de comédie.
Oui, c'est très bizarre, en fait. Est-ce que le sujet, ce serait pas peut-être les années 60 et ce que disait Charlotte, c'est-à-dire à la fois puritain, c'est un moment à la fois puritain et vulgaire, c'est un moment d'entre-deux à Hollywood où il y a un vieux monde qui doit disparaître, hein. Il y a des vieux cinéastes qui sont très vieux, qui font leurs derniers films, il y a un monde qui tarde à apparaître et qui va arriver à la fin des années 60, au début des années 70, et on est vraiment au milieu du marasme, avec à la fois une société, enfin des mœurs qui se libèrent, mais il y a quand même un système de censure qui pèse de tout son poids sur Hollywood, et ça fait que, bah voilà, on va utiliser la bouteille de champagne pour parler de sexualité, et on a le poids des studios, on le sent très fort, hein, ce poids des studios, on est vraiment enfermé dans les studios, donc voilà, il n'y a pas encore le lauréat arrive, Bonnie and Clyde arrive, mais on n'y est pas encore, et donc on est dans une sorte d'entre-deux un peu monstrueux, qui est peut-être la chose qui m'intéresse dans La Panthère Rose. Alors j'ai regardé le box-office de 1964, je crois, parce que le film est un peu en décalé. On a Mary Poppins, My Fair Lady et Goldfinger, donc James Bond.
James Bond.
Voilà, c'est pour vous montrer le marasme, quoi. C'est vraiment un moment à la fois où on parle un peu de sexualité, où il y a voilà cette quelque chose qui se libère, et en même temps c'est un moment très infantile, parce que quand même Mary Poppins, My Fair Lady, c'est un peu une idée de l'enfer, et Goldfinger aussi. Donc un moment de grande infantilisation à Hollywood, qui est un peu ce que je reprocherais à La Panthère Rose.
Charlotte Garçon, un mot sur les acteurs. Peut-être Peter Sellers pour commencer. on peut dire qu'il fait de la maladresse un style.
Oui, alors si la comédie c'est la douleur, pour moi la douleur là c'est l'inspecteur Clouseau. C'est vraiment, mais vraiment il incarne ça. D'abord parce que c'est un faux protagoniste. On oublie à chaque fois quand on revoit le film. Ah oui, mais en fait c'est pas lui le personnage principal et on a déjà mal un peu pour lui. Bon, ensuite c'est aussi le cocu de l'histoire, mais c'est surtout que en fait toute l'intrigue lui passe sous le nez véritablement. Et pour ça c'est une figure d'identification pour le spectateur qui se dit qu'il a un peu oublié, au fait, est-ce que le collier est volé ou pas ? Est-ce que la princesse quand elle est là, qui joue les vierges effarouchées et qui dit qu'elle ne boit pas, est-ce qu'elle ment et qu'en fait, Claudia Cardinal a plus d'un tour dans son sac ? Bon. Et on est soi-même dans ce point d'aveuglement qui, et lui traverse ça. Donc la douleur, pour lui, c'est une douleur physique. Hein. La première chose qu'il fait, il marche sur son Stradivarius. Donc... Mais en fait, dans ce cinéma...
Parce qu'il joue du violon pour calmer sa femme le soir.
Oui, pour l'endormir, puisqu'il n'arrive pas à l'endormir par d'autres moyens, dirons-nous. Et en fait, c'est lui, ses 40 ans, toujours puceau. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Il y a d'une part la reine vierge, disons la princesse Diala jouée par Claudia Cardinal, et d'autre part, lui, qui n'y arrive pas, qui n'arrive pas à consommer son mariage, puisqu'en fait, on comprend que c'est un mariage blanc, enfin, c'est un mariage un peu de ruse de la part de sa jeune épouse jouée par Capucine. Et donc, en fait, il y a ce... Pour moi, il incarne cette douleur à la fois dans le fait qu'il n'y arrive pas, hein, et on laisse le Y voilà, en suspens, et d'autre part, par le fait qu'il casse, il casse, il se casse, il est prisonnier dans une armure, et en fait, les choses se cassent, mais elles se régénèrent tout de suite. C'est ça qui est très cartoonesque dans ce film, c'est que comme le Stradivarius va être réparé en moins de deux, finalement lui aussi il peut être dans des accidents, il revit. Et c'est le problème aussi de ce genre de film, c'est que c'est ce que disait Muriel sur la nature parodique de ce cinéma n'arrive plus à nous toucher au sens de l'émotion profonde que peut atteindre le cinéma classique, de même qu'on n'arrive plus à vraiment faire mourir les personnages.
Mais c'est parce qu'il y a ce biais d'identification que après il est devenu finalement le personnage principal de la série, selon vous ?
Oui, ou peut-être grâce au talent comique de Peter Sellars, ce qu'on a vu dans des films anglais, à mon avis, un peu plus voilà, où il est, où c'est plus développé. C'est difficile de savoir ce qui fait le succès à l'époque, sinon qu'on peut situer le film entre la main au collet d'Hitchcock, où il s'amuse de la Côte d'Azur, des gens un peu sur le retour avec Cary Grant, qui a déjà un certain, un peu marqué par le bronzage à Nice, et donc avec cette intrigue policière, mais qu'on traite un peu délibérément par-dessus la jambe. Clairement, il y a des références à ce film dans la façon dont les bijoux sont dérobés ici. Et puis, l'autre film de la même année, réalisé la même année, c'est Charade de Stanley Donen,
dont nous allons parler très vite.
Et qui, lui aussi, est mis en musique par Mancini. Et à mon avis, qui est plus réussi dans le dosage entre comédie policière, disons éclatement de l'identité des stars, puisque Cary Grant y a 1000 identités. Mais voilà, en soi, il reste une sorte de curiosité, mais alors surtout avec, il y a des scènes voilà, de sexualité, de séduction, qui sont aujourd'hui un peu pas possibles.
Muriel Joudet, un dernier mot peut-être sur Claudia Cardinal, qui donc incarne une princesse indienne.
Oui, bah ça c'est les aberrations. C'est aussi un moment, les années 60, est en vogue les coproductions internationales, et vraiment les brochettes d'acteurs qui viennent de tous les pays pour que les films aient un maximum d'impact. Ça a pas donné de très grands films, je trouve, mais je trouve qu'il y a une sorte d'effet comme ça de bizarrerie entre des univers comme ça rapportés, à la fois anglais, américain, italien. Je la trouve. Alors moi, typiquement la scène sur le tigre empaillé, ça aurait pu être très très beau, mais il y a quand même. C'est vrai que le film est très daté sur le rapport aux personnages féminins. Et il y a un peu cette impression que les rapports hommes-femmes dans toutes les années 60 sont quand même, on dirait qu'on filme des enfants, quoi. Mmh. Vraiment, c'est aussi l'époque où il y a Doris Day, Rock Hudson, c'est-à-dire qu'on a l'impression de figurines comme ça. Le sexe n'a aucune gravité, tout est extrêmement futile, tout est extrêmement vulgaire aussi. Et ça, c'est cartoonesque. Et je pense juste rebondir sur cette dimension cartoonesque, je pense que le vrai cinéaste qui a réussi à vraiment faire quelque chose en plus de Blake Edwards, mais mieux que Peter Sellers, c'est Jerry Lewis, qui a vraiment commenté ce devenir cartoonesque des 60s, qui est aussi l'idée que finalement les genres, parce qu'on va parler de genres juste après, les genres sont tellement éculés, la comédie musicale, le western, qu'il faut donc les parodies. On ne sait plus trop quoi faire de ces genres-là. Là, c'est le vaudeville et en même temps le film d'enquête. On va faire un dernier tour de piste, se moquer un peu de tout, se moquer de ces codes éculés que le public connaît par cœur, avant de les faire totalement disparaître.
La Panthère Rose de Blake Edwards sort donc en salle aujourd'hui en version restaurée, mais bien sûr le film est disponible en VOD et aussi en DVD. Charlotte Garçon, puisque c'est Noël, vous avez amené avec vous un coup de cœur et c'est La Taverne de l'Irlandais de John Ford.
Oui, je vous ai amené un film dans lequel il y a aussi un personnage qui s'appelle Clouseau. Il est joué par Marcel Dalliot. Il joue un curé alors qu'il était de manière connue juif et John Ford s'en amusait. La Taverne de l'Irlandais, Donovan's Reef, c'est pas un des films connus de John Ford. C'est en fait le dernier film qu'il tourne avec John Wayne. Ils en ont tourné énormément. D'abord, John Wayne est apparu dans les films de Ford pendant la période muette. Et puis ensuite, ils ont fait 14 films ensemble, dont des chefs-d'œuvre, La prisonnière du désert, L'homme qui tua Liberty Valance, dont on avait l'impression que c'était un peu la fin du western, etc. Et là, il refait un dernier film avec lui. Et c'est un film assez touchant. Ça n'est pas un de ses chefs-d'œuvre, mais il se passe, puisqu'il a, disons, réglé son compte à l'ouest avec les westerns crépusculaires, il va encore plus à l'ouest, puisque ça se passe dans les îles polynésiennes, en Polynésie française, même si c'est tourné à Hawaï. Et c'est l'histoire d'un vieux marin qui a fait la guerre, donc la Deuxième Guerre mondiale, et qui s'est installé là, joué par John Wayne, et avec qui aide un vieux médecin, lui aussi vétéran de la guerre, et débarque la fille de ce médecin à qui il faut cacher que le médecin a eu des enfants avec la princesse de l'île qui est morte depuis. Alors il y a un tout petit peu de blackface, si on veut, il y a des questions problématiques aussi dans ce film qui date également de 1963, cette époque post-classique, mais on est chez Ford et Ford aime tous ses personnages et il parvient à faire passer énormément d'émotions, notamment dans une séquence très syncrétique de messe de minuit. Donc
c'est aujourd'hui. Et il ressort donc en version restaurée
Il sort en Blu-ray et DVD chez Sidonis.